Il est 21h, bonne soirée rock sur Attitude.
Rockland, le mardi, 21h-22h.
Mardi, 21h-22h sur Attitude.
He's waiting for the time when the last shall be first in the
Rockland, le mardi, 21h-22h.
Rockland. Bonsoir Angoulême, bonsoir la Charente, bonsoir les gens d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Rockland, c'est Seb aux commandes et on est ensemble jusqu'à 22h pour votre soirée rock sur Attitude. Ce soir dans Rockland, c'est musique et interview. En juin dernier, à l'occasion de la sortie du documentaire Enfermé nulle part, Eva et moi recevions la réalisatrice Nausicaa Price. L'occasion de découvrir le principe et le fonctionnement des zones d'attente. Rockland, c'est votre émission rock du mardi soir, 21h-22h. Qui suit l'autre musique de Stéphane Clairat et qui précède l'émission Frontières Rock de Dark Jérôme jusqu'à minuit. Vous êtes bien sur Attitude, on est ensemble jusqu'à 22h, le rock est mort, vive Rockland. Sur Attitude, on va parler d'un sujet assez méconnu du public et pourtant on en trouve à chaque port, aéroport et tout moyen d'accès au territoire français voire européen, les zones d'attente. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Nausicaa Price, co-réalisatrice du documentaire Enfermé nulle part. Bonjour Nausicaa.
Bonjour.
Alors, pour poser clairement le sujet, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une zone d'attente, s'il te plaît ?
Alors, une zone d'attente, c'est un concept juridique vraiment spécifique. Officiellement, c'est un lieu de maintien des personnes aux frontières, aéroportuaires et portuaires, comme tu l'as indiqué. Et ce sont des espaces qui sont régis par la police aux frontières, et qui sont régis par un code en fait particulier au sein du droit des étrangers, qui s'appelle le CCEDA. Et du coup, voilà, il y a une centaine de zones d'attente en France au niveau des ports et des aéroports dans lesquels les personnes peuvent être enfermées jusqu'à 20 jours. Donc il s'agit de personnes qui n'ont pas droit d'entrer sur le territoire français. C'est-à-dire que quand vous arrivez par exemple par aéroport et que vous passez des contrôles aux frontières, avec la police aux frontières, bah, vous pouvez être écarté de l'entrée sur le territoire. Et donc avant même d'entrer sur le territoire, vous pouvez être enfermé dans une zone qui s'appelle la zone d'attente, si vous n'êtes pas renvoyé tout de suite dans votre pays de provenance directe. Et dans cette zone-là, du coup, bah, y a tout un système qui s'enclenche où la police va essayer de vous renvoyer dans votre pays de provenance directe. Et vous avez accès au juge des détentions et de la liberté au bout de 4 jours seulement si vous arrivez à rester jusque-là. Et voilà, et après je vais pas peut-être rentrer dans les détails tout de suite, mais en fait il y a tout profil de personnes qui sont enfermées en zone d'attente. Ça peut être des personnes qui viennent faire du tourisme en France et dont le droit d'accès au territoire est contesté. Ça peut être des personnes qui veulent demander l'asile. Ça peut être des personnes qui ont un titre de séjour qui est contesté à l'arrivée. Il y a même des personnes françaises qui sont enfermées de temps en temps. Enfin voilà, donc il y a vraiment tout type de profils, en tout cas administratifs et de situations qui sont représentées dans les zones d'attente. Ce sont des espaces vraiment très très différents, quoi. Ça peut être un lieu qui ressemble littéralement à une prison, enfin pas exactement, mais qui en a beaucoup de traits, comme à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ou alors ça peut être une petite pièce au sous-sol comme à l'aéroport de Marseille à Marignane.
Et sachant que c'est un sujet plutôt méconnu, sauf pour les malheureuses personnes qui en ont fait l'expérience, qu'est-ce qui vous a amené ton co-réalisateur Antoine Boujard et toi à vous intéresser à ce sujet ?
Alors il se trouve que moi dans mes premières études, je travaillais sur la notion de la migration et notamment je trouvais beaucoup de ressources concernant par exemple, je travaillais sur les conséquences des refoulements des frontières françaises, des personnes qui tentaient d'accéder au territoire. Et il y avait énormément de ressources qui venaient de l'association ANAFE. Et du coup, je me suis intéressée à cette association. Et en fait, ça, c'était en 2015. Et j'ai été bénévole pendant 6 mois dans cette association qui fait de l'assistance juridique aux frontières et qui est vraiment spécialisée dans la question de la zone d'attente. C'est la seule association en France qui est spécialisée sur ce sujet et qui ne s'occupe que des personnes enfermées en zone d'attente et de cette question-là. Et du coup, j'ai été bénévole pendant 6 mois et je faisais des permanences juridiques, c'est-à-dire donc à la fois téléphonique, où en fait on essayait de joindre les personnes qui étaient enfermées parce qu'elles ont un droit d'accès téléphonique. Et en fait on essayait avec l'autre bénévole de comprendre leur situation, de les informer d'où ces personnes étaient et éventuellement d'essayer de les assister dans leur situation en leur expliquant un peu ce qu'elles pouvaient faire. Et voilà, donc en fait pendant 6 mois j'ai été bénévole dans cette association et Antoine Boujard, du coup le co-réalisateur de ce documentaire, de son côté a été visiteur de zone d'attente. Qui est en fait un autre statut de bénévolat, c'est-à-dire qu'il faisait des visites dans les zones d'attente. Donc l'ANAFE peut fournir des cartes spéciales pour pouvoir faire des visites inopinées au sein des zones d'attente et documenter ce qui s'y passe. Donc avec énormément de problèmes évidemment que ces bénévoles rencontrent. Mais du coup voilà, on s'est rencontrés tous les deux sur un marché creusois. Et en fait on a parlé tous les deux du fait que c'était une situation qui nous avait beaucoup marqué, enfin la situation des gens, un manque d'accès aux droits vraiment manifeste et qui reflétait pour nous quelque part que la police aux frontières avait comme dessein quand elle était en dehors de tout regard de la société civile. Parce que la particularité de la zone d'attente, c'est que très peu de personnes y ont accès. Comme tu disais, il y a très peu de personnes qui ont connaissance de cette zone-là. Et du coup, on avait l'impression qu'en fait, il y avait beaucoup d'arbitraire et d'aléatoire qui s'y jouait, et que quelque part, s'il n'y avait pas de droit de regard sur les politiques migratoires françaises, c'est ça qui se passerait partout. Et on avait l'impression que c'était assez emblématique de la politique migratoire européenne française. Et puis, ça faisait depuis 2015 que je cherchais un moyen de parler de ça. Et le fait de rencontrer Antoine, je vais parler pour moi, mais ça a été un tremplin. Et en fait, on s'est mis à écrire le sujet et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes choses en tête, c'est qu'on avait les mêmes ressentis vis-à-vis des zones d'attente. Et comme on était devenus documentaristes radio tous les deux, c'était en 2019 du coup, et on s'est mis à travailler sur ce sujet-là, en étant assez rapidement en lien à nouveau avec cette association, la NAFE, qui nous a beaucoup accompagnés dans ce documentaire.
Dit, c'est un sujet assez méconnu, donc selon vous, est-ce que c'est une méconnaissance involontaire ou une dissimulation voulue de la part des autorités ?
En fait, je pense que ce sont des zones qui sont déjà très difficiles d'accès. En fait, je ne sais pas trop répondre à cette question parce que je pense qu'il s'agit d'invisibiliser ces personnes-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... il faut vraiment avoir connaissance du fait qu'elles existent. Et ce sont des zones qui sont cachées. Même les membres des familles ou des membres associatifs qui souhaitent rendre visite à une personne qui est en zone d'attente, ben, cette personne-là va vraiment rencontrer des difficultés juste pour savoir où se trouve cette zone-là. Donc je pense qu'il y a quand même une invisibilisation, comme il se passe beaucoup aux frontières françaises et européennes, de ces personnes-là, qui sont un peu écartées des regards, comme les personnes enfermées sur le territoire français par ailleurs. Et je pense que c'est un droit très très spécifique qui s'applique dans ces zones-là. Et souvent, je trouve ça assez emblématique, même les avocats et les avocates en droit des étrangers méconnaissent ce droit-là, le droit de la zone d'attente. Et du coup, en fait, souvent, ce sont les personnes de l'ANAFE ou des personnes d'autres associations qui doivent accompagner les personnes enfermées ou carrément accompagner les avocats et avocates des personnes enfermées quand elles arrivent à avoir accès à ces personnes-là. Et du coup, je pense que c'est un mélange de plein de choses, un mélange d'invisibilisation de ces personnes qui est, ça c'est à mon avis, mais qui est voulu de la part des autorités françaises, et également, en fait, peut-être que, en comparaison de centres de rétention administrative, donc des centres d'enfermement pour personnes étrangères sur le territoire français, en fait, ça représente beaucoup moins de personnes en termes de nombre, quoi. On parle de quelques personnes, peut-être moins de 10 enfermées à Toulouse par semaine. L'exception, c'est peut-être Roissy et Orly, où il y a, enfin, à Roissy, il y a entre 50 et 150 personnes enfermées en continu, quoi. Enfin, en tout cas, sont présentes dans la zone d'attente entre 50 et 150 personnes tous les jours. Donc voilà, j'ai l'impression que ça représente un espèce de nombre qui est quand même moins important que dans les centres de rétention administratifs, et peut-être que les associations se concentrent plutôt là où il y a un peu, selon elles, une urgence en termes de nombre de personnes. Mais je pense que la raison principale, c'est l'invisibilisation et le fait qu'il y a déjà beaucoup à faire, en fait, par ailleurs, sur ces questions-là, sur le territoire français. Mais voilà, je ne sais pas exactement. C'est plutôt une opinion qu'un savoir.
Le mardi, 21h-22h sur Attitude.
Et vous, en tant que documentariste, c'est grâce à l'ANAFE que vous avez pu être mis en contact avec des personnes ressortissantes des zones d'attente ?
Oui, oui. Donc il y a eu plusieurs biais. L'ANAFE accompagne des personnes, pas tous les jours, mais presque, qui sont enfermées en zone d'attente. Et après ces suivis-là, souvent il y a des membres de famille ou des personnes qui ont envie de témoigner par rapport à ce qui s'est passé, parce que en ce moment, des personnes très choquées par ce passage en zone d'attente. Et du coup, l'ANAFE, à ce moment-là, proposait à ces personnes d'entrer en contact avec nous. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait des interviews. Donc, dans le documentaire, il s'agit des témoignages qu'on a fait au passé. Donc, les personnes racontaient au passé ce qui s'était passé au jour le jour dans la zone d'attente et un peu la détérioration de leur état et ce qu'elles ont compris au fil des jours d'enfermement. Et à côté de ça, donc, on a eu accès aux numéros de téléphone qui sont dans les zones d'attente. Et du coup, nous, on a fait un travail de tournage téléphonique, c'est-à-dire qu'on se mettait dans une pièce avec Antoine et qu'on appelait les téléphones des zones d'attente jusqu'à ce qu'on arrive à joindre des gens. Donc déjà, c'était pas simple d'avoir accès à des personnes. Une fois qu'une personne décrochait, bah, il fallait qu'on arrive à se comprendre. Donc souvent, on ne parlait pas la même langue. Quand il n'y avait pas l'anglais, l'espagnol ou le français, qui sont les langues qu'on maîtrise un peu avec Antoine, ben, en général, on ne pouvait pas communiquer. Ensuite, une fois qu'on arrivait à communiquer, il fallait que les personnes comprennent notre démarche documentaire, parce qu'il y avait un risque quand même qu'on soit assimilé à l'ANAFE, qui passe souvent des coups de fil, sauf que nous, on ne pouvait pas faire d'assistance juridique. Donc il y avait tous ces enjeux-là jusqu'à ce qu'on arrive à discuter avec les gens. Et voilà, et quand on arrivait à discuter, il y avait beaucoup de personnes qui avaient quand même peur de parler, parce que c'était des contextes de quand même d'arbitraire policier très fort, et ces personnes avaient peur d'être embêtées si la police apprenait qu'elles avaient témoigné. Donc voilà, au final, ça faisait beaucoup le tri dans nos capacités de communication, et c'est que vers la fin du tournage qu'on a vraiment réussi à avoir des longues conversations avec les gens qui avaient voilà vraiment envie de parler et pour lesquels on était un peu le dernier recours, en fait, le dernier moyen de pouvoir porter leur voix, en tout cas.
Sur Attitude.
Et c'est vrai qu'on remarque vraiment à l'écoute du documentaire que les personnes qui sont enfermées là n'ont souvent donc aucune idée de ce qui les attend, que ce soit niveau procédure, niveau temps réglementaire de détention et surtout niveau droit. Du coup, bon, dans le cadre du documentaire, tu l'as dit, ça a été compliqué, mais est-ce que dans le cadre de l'ANAFE, quand on vient informer les personnes, vous arriviez facilement à obtenir leur confiance ou est-ce que vous tombiez bien souvent, voilà, comme tu l'as dit, sur des personnes méfiantes, voire choquées ou en détresse, qui ne savent même plus à qui se fier ?
Alors souvent, l'ANAFE est le seul recours des personnes, c'est-à-dire que il n'y a pas de permanence d'avocat dans les zones d'attente, et le fait que déjà les bénévoles se présentent et dire que ils et elles sont là pour accompagner les personnes et les informer de leurs droits, sans rien leur demander, ben, en fait, ça facilite quand même l'accès à ces personnes-là. Et souvent, les personnes sont avides d'informations. Donc, j'ai très peu de souvenirs de moments où, où les personnes ne voulaient pas me parler. En tout cas, quand j'étais bénévole, en 2015. Et dans les permanences juridiques donc des bénévoles d'aujourd'hui, qu'on a enregistrées, il y avait très peu de personnes qui refusaient de parler aux bénévoles de l'ANAFE. Après, souvent, c'est un problème d'accès plutôt qu'un problème de volonté des personnes de parler aux bénévoles de l'ANAFE. C'est à Roissy, par exemple, il y a plein de cabines téléphoniques. Donc, pour retrouver les gens, pour assurer leur suivi, c'est quand même très compliqué. Quand il y a 100 personnes enfermées, le temps que les personnes soient trouvées par les personnes qui décrochent, parfois elles ne sont pas trouvées. C'est un paradoxe, en fait, parce qu'il y a souvent une grande urgence à intervenir et à faire valoir les droits des personnes et à les informer de ce qu'elles peuvent faire. Et à la fois, c'est quand même très très laborieux d'avoir accès à elles. Donc je dirais que c'est pas un problème de peur des personnes, de parler aux personnes de l'ANAFE, mais en tout cas, c'est plutôt un problème d'accès et de facilité de communication.
Oui, justement, parlons-en, parce que, bon, voilà, on a vu que les personnes, effectivement, se retrouvaient là sans trop savoir ce qu'elles faisaient. Et est-ce que les autorités sont plutôt coopératives quand les associations interviennent ? Donc tu l'as dit, elles ont le droit. Ou est-ce que vous avez pu noter une certaine obstruction, voire hostilité de la part des pouvoirs publics ?
Alors, c'est une question compliquée. Je sais pas si je peux trop parler au nom de l'ANAFE, parce que là, je suis en l'occurrence documentariste, mais ce que moi j'ai observé, et ce que pouvaient dire les personnes de l'ANAFE pendant les diffusions qu'on faisait en leur présence, c'est que c'était un rôle ambigu, c'est-à-dire que les bénévoles de l'ANAFE doivent appeler les polices aux frontières pour avoir accès à des informations, enfin, c'est presque indispensable. C'est ce qu'on entend au début du documentaire, ce que les bénévoles et l'ANAFE appellent le Tour de France. Donc à chaque début de permanence, les bénévoles appellent toutes les zones d'attente de France pour savoir s'il y a des personnes enfermées. Et ça, c'est la police aux frontières qui peut informer de ça. Donc en fait, la police aux frontières répond ou ne répond pas. Et ce qui est constaté, c'est qu'il y a de moins en moins de coopération de la part de la police aux frontières qui refuse de plus en plus de donner des informations, ne serait-ce que le nombre de personnes enfermées. Et des informations sur les personnes et leur situation, n'en parlons pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est constaté. Ensuite, quand même une petite ambiguïté existe parce que l'ANAFE, du coup, a le droit d'avoir un bureau au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, enfin, pas de l'aéroport, enfin, de la zone d'attente qui est au sein de l'enceinte aéroportuaire. Et du coup, c'est la seule association qui a le droit d'avoir un bureau avec la Croix-Rouge qui est prestataire de l'État pour gérer le quotidien en zone d'attente. Donc c'est vrai que pour les bénévoles, c'est assez compliqué parce qu'il y a une hostilité, enfin, en tout cas que je constate moi, de la part de la police aux frontières. Et à la fois, les bénévoles doivent quand même ménager un peu la chèvre et le chou pour essayer de quand même continuer à être en communication et essayer de faire en sorte, malgré cette hostilité, de continuer à collaborer. Voilà. C'est quand même de plus en plus compliqué et il faut le noter, il y a quand même une entrave à l'accès aux personnes et aux informations.
Ride, how we ride. And ride.
le mardi 21h-22h.
Dans le documentaire, vous revenez également beaucoup au système juridique. Donc les personnes en zone d'attente passent devant un jury qui accepte ou non leur intégration sur le territoire français. C'est également une branche méconnue du système judiciaire, tout comme du coup les zones d'attente. Est-ce que vous pouvez revenir dessus sur cette branche judiciaire spécifiquement ?
Là où ce droit est assez particulier, c'est que donc les personnes peuvent être enfermées jusqu'à une durée maximale de 20 jours. Donc dans les premières mesures un peu juridiques particulières, il y a donc quand vous avez un refus d'accès au territoire français et une notification de maintien en zone d'attente, normalement il y a une journée où vous pouvez régulariser votre situation aux yeux de la police aux frontières et où elle peut dire ah bah voilà, il vous manquait ce papier, vous l'avez récupéré, donc bah, du coup on va vous libérer parce que maintenant vous avez droit d'accès sur le territoire. Donc ça c'est la théorie. Et en pratique, ça arrive très peu. La police, en général, une fois que vous êtes enfermé, en fait, vous avez très peu de possibilités de sortir, même avec la présence de ce jour franc. Ce droit-là est très très peu appliqué. Il y a très peu de personnes libérées au premier jour. Ensuite, donc la police peut vous renvoyer à tout moment. Donc elle peut décider que vous allez être... Donc par exemple, vous êtes ressortissant anglais, vous êtes passé par la Turquie, par Istanbul, pour venir en France. Bah, en fait, s'il y a un vol de retour vers Istanbul et que vous n'avez pas droit d'accès au territoire français, là, vous pouvez être refoulé dans le prochain vol. Ces renvois-là peuvent être suspendus si jamais vous faites une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Donc c'est pas une vraie demande d'asile, mais les personnes qui arrivent pour demander une protection en France peuvent demander l'entrée au titre de l'asile en zone d'attente. Donc c'est une espèce de procédure accélérée. C'est pas pour demander l'asile directement, mais c'est pour demander à entrer sur le territoire au titre de l'asile. Donc là, il y a toute une procédure avec l'OFPRA. Donc voilà, vous demandez cette entrée-là au titre de l'asile. Au bout de 24 heures, vous passez devant des agents de l'OFPRA, donc souvent par téléphone ou par visio. Et le lendemain ou le soir même, vous avez une réponse et vous avez 48 heures pour faire recours. Si jamais cette demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile est acceptée, vous avez un laissez-passer sur le territoire de 8 jours pour demander l'asile, effectivement, sur le territoire français. Il y a très très peu de personnes qui ont accès à ce droit-là, encore une fois. C'est une procédure accélérée où les personnes souvent ne sont pas du tout préparées à l'entretien. Donc quand les bénévoles de l'ANAFE apprennent qu'une personne a fait cette demande-là, ben, les bénévoles essaient de les préparer à l'entretien. Ensuite, au bout de 4 jours, il y a, donc, comme tu disais, un passage devant le juge des libertés et de la détention, donc le JLD. Donc c'est un premier passage avec des tribunaux souvent délocalisés, enfin en tout cas parfois délocalisés comme à Roissy où l'annexe du tribunal de Bobigny est carrément collée à la zone d'attente, donc au milieu de nulle part. Donc c'est vrai qu'il y a très très peu de personnes de l'extérieur qui viennent assister et observer ce qui s'y passe. Donc ce qui est un problème quand même relevé par beaucoup d'associations, une espèce de justice ad hoc loin de tous les regards. Et à ce moment-là, du coup, le juge décide du bien fondé de la décision de l'administration, c'est-à-dire vérifie que l'administration a raison, et en tout cas de maintenir les personnes en zone d'attente. Et là encore, il y a très très peu de libération en fait, et c'est très personne dépendant, c'est-à-dire qu'avec Antoine, on a assisté à quelques jugements en tant qu'observateur et observatrice, et notamment par les rapports de l'ANAFE, on voit bien qu'il y a des moments où vraiment personne n'est libéré, et des moments où tout à coup, il y a 3-4 personnes par procès, donc à Roissy, qui sont libérées. Donc si jamais la personne, enfin le juge décide de ne pas libérer les personnes, donc elles sont enfermées à nouveau en zone d'attente, et 8 jours après ces 4 jours, elles vont voir le juge une deuxième fois, donc souvent c'est un autre juge ou une autre juge, avec la même procédure, quoi. Et ensuite, si la personne est maintenue en zone d'attente, ben en fait, le seul moyen d'être libéré, c'est d'attendre et d'accéder aux 20 jours, sachant que pendant tout ce temps, la police essaie de renvoyer les personnes dans leur pays de provenance directe. Si les personnes ne veulent pas, c'est considéré comme un délit par l'administration. Donc si les personnes refusent, la police peut dire « bon ben ok, vous refusez, donc on va vous laisser tranquille, mais ça marche pas très longtemps », comme dit un bénévole dans le documentaire. Et ensuite, donc les autres possibilités, c'est que la personne, comme c'est un délit, ben, elle soit placée en garde à vue, qui peut amener à un placement en centre de rétention administratif, à une libération éventuellement, ou à de la prison. Et sinon, ben, comme c'est expliqué dans le documentaire, il y a des fois où la police renvoie de force les personnes et les met dans l'avion par la force, quoi. Do. How was I to know?
baby. Ha! I'm the innocent bystander. In a hard place, and I'm down on my luck. Yes, I'm down on my luck. Well, I'm down on my luck. I'm hiding in Honduras. I'm a desperate man. Guns and money. This shit has hit the fan. Oh, send lawyers, guns and money. Guns and money. Send lawyers, guns and money. Hey! Send lawyers, guns and money.
Basse, batterie, supplément rock. Rockland, le mardi, 21h-22h sur Attitude.
Rockland, le mardi, 21h-22h.
C'est vrai que ce documentaire pointe beaucoup de choses dans le traitement des personnes par les autorités. Je pense notamment à cette femme enceinte plaquée au sol et menottée. Des décisions qui, faute d'explication, semblent tenir de l'arbitraire, comme le refus de donner du linge de rechange à une mère et sa fille enfermée. Ou encore la facette juridique qui était abordée juste avant, avec plusieurs instances qui viennent jouer leur rôle, mais où les personnes concernées par la détention sont peu ou pas considérées. On pourrait en premier lieu penser à une série de dysfonctionnements, se dire que normalement ça se passe mieux, mais ces histoires qui se recoupent ont l'air tout de même assez nombreuses et n'ont pas l'air de poser problème aux différentes autorités lorsqu'elles se déroulent. Donc au final, est-ce qu'on peut parler d'un phénomène systémique au regard de ce qui se passe dans ces zones d'attente?
Oui, je crois qu'on peut parler d'un système, en tout cas qui n'est pas censé forcément se passer comme ça. Enfin, il y a un droit, mais après, entre la théorie et l'application, quand la police aux frontières est en dehors de tout regard extérieur, c'est ce qui nous a beaucoup marqué avec Antoine, c'est le fait que ce soit devenu un système et qu'en fait il y ait une hostilité de fait envers les personnes qui n'ont pas droit d'accès au territoire français. Qui que vous soyez, vous allez être traité de la même façon, avec quand même des petites adaptations, je vais dire ça comme ça, mais où les personnes enceintes sont quand même particulièrement visées parce que même si vous avez tous les papiers pour rentrer sur le territoire français, la police peut estimer qu'elle a le droit de vous enfermer en zone d'attente parce que vous représentez un risque migratoire. C'est-à-dire, même si vous avez tous les papiers pour venir en tant que touriste et que vous, en théorie, vous auriez tous les droits pour rester, la police considère que vous mentez sur vos intentions et qu'en fait, vous voulez rester sur le territoire français et donc elle vous enferme et essaie de vous renvoyer dans votre territoire de provenance directe. Donc l'arbitraire, il part aussi de là. Et quand Antoine, du coup, en tant que visiteur, posait des questions aux policiers sur ce qui détermine ce risque migratoire qui est assez subjectif, la police disait « Ah ben ça, c'est le flair policier », qui est très violent, en fait. Là, on se base plus sur le droit, on se base sur la subjectivité de la police aux frontières. Et quand on voit comment ça se passe, on peut estimer qu'il y a plutôt une hostilité de fait et une méfiance vis-à-vis des personnes qui arrivent sur le territoire français. Donc, un système... Je sais pas si officiellement c'est un système, en tout cas dans la pratique, oui, on peut parler de pratique systémique.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. When you're strange,
whispers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Le mardi, 21h-22h.
On entend plusieurs témoignages dans le documentaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des nouvelles de ces personnes? Par exemple, est-ce qu'elles sont retournées en France depuis? Est-ce qu'elles ont réussi à aller sur le territoire français?
Alors, donc dans les personnes qu'on entend au tout début, donc il y a Josh et Lébé, donc les personnes qui parlent plutôt avec un récit au passé. Donc Josh est retourné au Mexique. Donc dans le documentaire, après ce passage en zone d'attente, comme il ne mangeait pas, il ne buvait pas parce qu'il était trop effrayé par la situation, en fait, il a demandé à rentrer. Donc c'est ce qui est indiqué dans le documentaire. Et il avait extrêmement peur de reprendre l'avion. Et au final, sa compagne française est venue le rejoindre au Mexique pour venir ensemble en France. Donc ils sont arrivés tous les deux en France. Ils n'ont eu aucun problème. Donc il est resté la durée de 3 mois à Paris pour rencontrer la famille de sa compagne. Et c'est à cette occasion-là qu'il a souhaité témoigner et que moi je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, je crois qu'ils continuent tous les deux à faire des allers-retours entre le Mexique et la France. Ensuite, Lébé avait réussi à entrer en France. Et après, quand on l'a contacté, donc c'est l'appel par Skype qui est un peu compliqué parfois à comprendre. Mais du coup, on l'a contacté quand elle était rentrée chez elle au Sénégal. Mais elle avait pu faire son séjour du coup en France comme elle l'avait prévu, enfin un peu plus écourté de par son passage en zone d'attente. Et ensuite, les personnes qu'on a rejointes plutôt par téléphone, il y a une personne kurde qui parle à un moment et elle a eu l'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Donc c'est une personne qu'on avait rencontrée au tribunal de la zone d'attente de Roissy Charles de Gaulle. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles on n'avait pas pu prendre de coordonnées, donc on n'a pas pu avoir de leurs nouvelles, notamment les personnes qu'on entend de manière très courte dans le documentaire. Et ensuite, il y a deux personnes qu'on a vraiment suivies au jour le jour avec Antoine. Donc Antoine a suivi une personne que je vais appeler J. Et cette personne a été renvoyée de force au camisole, du coup, en Grèce, à Athènes. Donc cette personne a été enfermée pendant plus de 5 jours dans une cave. Donc il se trouve que c'est un cas de figure assez récurrent, que les personnes sont enfermées aussi quand elles sont renvoyées dans le pays de provenance directe, parce que souvent les pays ne savent pas trop quoi faire de ces personnes et trouvent rien de mieux que les enfermer. Et ensuite, cette personne a demandé à un peu couper la communication parce qu'elle n'avait plus envie d'entendre parler de la zone d'attente, mais on sait que sa sœur a pu lui rendre visite à Athènes et que cette personne cherchait un autre moyen de s'en sortir. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Et donc moi, j'ai suivi une personne qui s'appelle A, qui était enfermée à Lyon, Saint-Exupéry, et qui a été refoulée au bout de 7 jours, je crois, qui a été renvoyée à Londres. Et donc cette personne avait tout quitté aux États-Unis pour avoir un nouveau travail en Allemagne, mais du coup, je ne sais pas si on comprend bien dans le documentaire, mais je crois, mais il a appris en arrivant à Lyon-Saint-Exupéry qu'il était interdit du territoire Schengen. Il n'a jamais pu savoir pourquoi, et il avait un poste d'ingénieur, enfin, il avait été pris dans une entreprise en Allemagne, et du coup il est resté bloqué plus de 6 mois en Angleterre, parce que juste il avait peur de voyager, il est états-unis-marocain, il aurait éventuellement pu aller au Maroc, mais... Il a eu peur des conséquences de tout ce qu'on avait dit sur lui à la frontière française. Il avait peur que ce soit transmis à tous les autres aéroports. Donc il n'a pas osé rejoindre sa mère au Maroc. Donc il est resté à Londres et aux dernières nouvelles, il était toujours à Londres. Et je crois qu'il laisse tomber l'idée d'arriver sur l'espace Schengen parce qu'il n'arrive pas du tout à engendrer la procédure d'effacement qu'il souhaiterait, quoi. Donc il est un peu dans des limbes administratives et de vie, quoi.
Rockland, mardi 21h-22h sur Attitude.
Et quels sont les retours que vous avez pu avoir suite à la diffusion du documentaire ?
Alors, du coup, le documentaire est diffusé sur la radio-télévision suisse, donc on a assez peu de retours des personnes qui... c'est un peu le problème de la radio, c'est qu'on a peu accès aux retours, mais quelques-uns quand même de gens qui découvrent complètement ce système et sont plutôt choqués et ressortent assez émus de par les histoires qui apparaissent dans le documentaire et aussi, je pense, de par le fait de ne pas connaître, en fait, cet espace-là, où il se passe des choses quand même graves. Ensuite, on a commencé les diffusions publiques en mai. Le documentaire est mixé depuis le mois de mai. Et du coup, on a organisé plusieurs séances à Angoulême, en Dordogne, dans la Creuse, à Paris aussi. Et donc là, il y avait entre 20 et 70 personnes dans les écoutes. Et là, c'est des moments forts pour Antoine et moi, parce que donc ça faisait 3 ans qu'on était sur ce projet-là. Et déjà, de sortir ce documentaire et de voir qu'il était accepté en séance publique, là, dans des lieux de diffusion, des cafés associatifs, des librairies, c'était quelque chose d'important pour nous. Et aussi de voir l'émotion des gens et l'envie que les gens après avaient d'en parler et de mieux comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas un doc qui est très très explicatif. On a essayé de faire un documentaire assez immersif, avec un minimum d'explications quand même, mais voilà, il n'y a pas toutes les explications, et souvent les gens ont envie d'en savoir plus, de savoir ce qui fait que ça se passe comme ça, et ont envie de savoir, voilà, à l'échelle européenne, comment ça se passe, est-ce que c'est un cas uniquement français, ou est-ce que ça se passe ailleurs de la même manière, qui dénonce ça. Donc souvent les gens sont assez choqués en fait de cette espèce de voyage par le son en zone d'attente.
Et justement, à propos de ces rencontres avec le public, est-ce qu'il y en a des prochaines de prévues, des échanges, des diffusions ?
On est en train d'essayer d'organiser, et c'est en bonne voie, des diffusions à Lyon, en région parisienne, en Bretagne aussi, en Ariège, dans le Tarn, à Marseille en décembre. Là, c'est un gros travail qu'on est en train de faire avec Antoine, de contacter des lieux pour des diffusions, et aussi on est en train d'envoyer le documentaire dans des concours de radio et des festivals de radio comme Longueur d'onde qui a lieu en janvier tous les ans, et aussi des festivals comme Phonurgia ou le prix Europa. Donc on a fait une traduction du documentaire en anglais, donc sur fond noir on a mis des sous-titres pour que le documentaire puisse être écouté aussi par des personnes non francophones, et donc voilà, on va essayer de l'envoyer en festival international. Il y a du sens pour nous, parce qu'on a l'impression que c'est important aussi que cette situation soit connue ailleurs et que le documentaire puisse être diffusé aussi avec les sous-titres pour être compris par les personnes qui parlent anglais pour l'instant. Peut-être qu'il y aura d'autres sous-titrages, mais pour l'instant c'est pas prévu.
Alors avant de terminer cette interview, si nos auditeurs souhaiteraient devenir bénévoles à l'ANAFE, comment peuvent-ils faire ?
Alors il faut contacter l'ANAFE. Il y a souvent des appels à bénévolat, donc il faut contacter l'association. Toutes les coordonnées sont sur le site de l'ANAFE, je crois que c'est anafe.org, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Donc c'est très bienvenu, et vous avez une petite formation quand vous arrivez, et vous avez différents types de bénévolat possibles et de soutien. Voilà.
Eh bien, enfermé.es nulle part, c'est donc le nom du documentaire, un documentaire audio, et il est disponible en accès totalement libre sur le site de la RTS. Merci Nausicaa Price d'être venue nous le présenter.
Merci, à vous.
Merci Nausicaa.
Walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over reach. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. Sleeping
the city going down. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost.
C'est fini pour ce soir, place à Frontière Rock, votre émission post-punk de 22h jusqu'à minuit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain.